VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonsoir. En République centrafricaine, la force de la MINUSCA déplore la mort de 8 personnes tuées ces derniers jours à Ngaoundaï, dans le nord du pays, par un groupe armé. Aujourd'hui, la force onusienne a assuré que des mesures sont déjà prises pour sécuriser la population de cette localité face à des attaques du genre. Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, la force onusienne en Centrafrique, la MINUSCA, a déploré la mort de ces 8 personnes tuées dans une attaque d'hommes armés inconnus à Ngaoundaï. Selon le lieutenant-colonel Adolphe Manira Kiza, porte-parole militaire de la force onusienne en Centrafrique, des dispositions sont déjà prises pour sécuriser la population.
La force de la MINUSCA déplore la mort de 8 personnes tuées à Ngaoundaï par des bandits armés qui oscillaient entre les frontières camerounaises, tchadiennes et centrafricaines. Elle rassure la population que tout est en train d'être fait pour démanteler ce groupe et prévenir des attaques du genre. La force de la MINUSCA tient à démentir l'information diffusée disant que la population de Ngaoundaï a averti les forces de la MINUSCA de la localité de l'arrivée de ce groupe de criminels et que la force de la MINUSCA n'a rien fait pour protéger la population.
Le lieutenant-colonel Adolphe Manira Kiza, porte-parole militaire de la force onusienne en Centrafrique. Grève des fonctionnaires au Gabon depuis février. Les fonctionnaires gabonais ont entamé une grève générale illimitée pour réclamer des revalorisation salariale. Après plusieurs semaines de débrayage, on note un certain enlisement, selon Fridolin Demessa, un leader syndical de la fonction publique.
Oui, effectivement, nous sommes dans l'enlisement total, parce que nous ne comprenons pas que les partenaires qui sont associés au travail qui doit aboutir à la mise en place d'un nouveau système de rémunération refusent de travailler afin de participer à son aboutissement le plus rapidement possible. Parce que le gouvernement, lui, il campe sur sa position en disant que le nouveau système ne peut être prêt au mois de juillet 2015. Or, nous pensons qu'au niveau de la dynamique unitaire responsable, nous pensons qu'on peut ramener l'échéance au mois d'avril-mai pour permettre à ce que les premières simulations soient faites rapidement. Donc, or, les autres pensent qu'ils sont d'accord pour juillet, mais ils veulent qu'avant d'arriver à juillet, le gouvernement procède à des augmentations provisoires de salaire. Or, au Gabon, on sait que ce qui est provisoire devient de facto définitif.
Fridolin Demessa, un leader syndical de la fonction publique. Une dizaine de militants d'un mouvement congolais pro-démocratie arrêtés mardi à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo ont été libérés, de même qu'un journaliste congolais à Kinshasa, a-t-on appris mercredi de sources officielles et auprès de la chaîne de télévision. Les militants du mouvement congolais Lutte pour le changement avaient manifesté pour demander la libération d'activistes africains arrêtés dimanche dans la capitale, Kinshasa, lors d'une rencontre sur la bonne gouvernance et la démocratie. Et à Kinshasa, un journaliste de la chaîne congolaise privée Antenne A, Eric Izami, arrêté avec les militants africains ce week-end, a également été libéré mardi soir, a annoncé la chaîne.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise politico-militaire au Soudan du Sud, le président Salva Kiir n'accepte pas que son rival Riek Machar redevienne son vice-président dans le cadre d'un partage du pouvoir. Après 15 mois de conflit, l'option privilégiée était que la présidence resterait à Salva Kiir, tandis que la vice-présidence irait à Riek Machar, fonction qu'il avait occupée jusqu'à son limogeage par le chef de l'État en juillet 2013. La médiation menée par l'organisation intergouvernementale est-africaine IGAD avait donné jusqu'au 5 mars aux deux hommes pour qu'ils s'accordent sur une formule de partage du pouvoir, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, se séparant le 6 sur un constat d'échec. À Freetown, le président Ernest Bai Koroma a limogé son vice-président. Cette annonce met fin à une crise au sommet de l'État sierra-léonais, ouverte par l'exclusion du parti au pouvoir de M. Sam Soumana, qui avait demandé l'asile aux États-Unis, se disant en danger. Nicolas Pinault.
Oui, la nouvelle est tombée cette nuit à la radio nationale. Dans un communiqué, M. Koroma annonce relever Samuel Sam Soumana de ses fonctions de vice-président avec effet immédiat. Le président sierra-léonais précise être en discussion avec son parti pour lui désigner rapidement un successeur. Le chef de l'État motive cette décision par l'exclusion du vice-président le 6 mars du Congrès de tout le peuple, le parti au pouvoir. Koroma reproche aussi à Sam Soumana d'avoir demandé le 14 mars dernier l'asile auprès d'une ambassade étrangère, manifestant ainsi sa volonté d'abandonner ses fonctions. L'ancien vice-président attend en effet une réponse de l'ambassade américaine à Freetown concernant sa demande d'asile.
19 personnes, dont 17 touristes polonais, italiens, allemands et espagnols, ont été tuées mercredi dans l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis par des hommes armés, a annoncé le premier ministre tunisien Habib Essid lors d'un point de presse. Les deux victimes tunisiennes sont un policier et un civil. Le premier ministre a indiqué que les assaillants, vêtus selon lui d'uniformes militaires, avaient ouvert le feu sur les touristes alors que ces derniers descendaient de leur bus, puis les avaient pourchassé à l'intérieur. Il n'a pas évoqué de tentative de prise d'otage. Et par ailleurs, le ministre de la Santé, Saïd Haïdid, a indiqué à la presse que 38 personnes avaient été blessées, notamment des ressortissants de France, d'Afrique du Sud, de Pologne, d'Italie et du Japon. Selon la télévision nationale, deux assaillants ont donc été tués. La même source a indiqué que l'opération de police était terminée et que l'évacuation des touristes du musée était achevée.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En Israël, Benjamin Netanyahou se retrouve ce mercredi en situation de former une nouvelle majorité gouvernementale. Le premier ministre sortant a mené son parti de droite, le Likoud, à une victoire haut la main aux élections législatives d'hier. Victoire qui a pris plus d'un de court, surtout face aux sondages défavorables. Que signifie ce succès personnel de Benjamin Netanyahou pour les relations israélo-palestiniennes, mais également celles avec les États-Unis pour des éléments de réponse. Jacques Aristide a contacté le chef du bureau de la VOA Jérusalem, Scott Bob.
Ce qui a pris par surprise, c'était le fait que la veille du vote, les sondages publics démontraient les deux partis, c'est-à-dire le centre-gauche et le centre-droite, coude à coude. Mais l'espace de quelques jours, le Likoud a pu gagner 6 sièges la gauche. Donc, mais d'après certains analystes, ces votes sont venus de la droite même. Donc, c'est-à-dire le Likoud a cannibalisé, dans un certain sens, la droite plus extrême pour démontrer cette grande victoire.
En Israël, donc, conséquence de la victoire de Benjamin Netanyahou, eh bien, la présidence palestinienne se dit prête à coopérer avec tout gouvernement acceptant un État palestinien aux côtés de l'État hébreu. Peu nous importe qui sera le prochain Premier ministre d'Israël. Ce que nous attendons de tout gouvernement, c'est qu'il reconnaisse la solution à deux États, a déclaré le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, cité par l'AFP. A noter que Benjamin Netanyahou, Premier ministre, quasi assuré de former le prochain cabinet, a d'ores et déjà annoncé que les Palestiniens n'auront pas justement l'État auquel ils aspirent avec lui au gouvernement. Ici à Washington, le Secret Service a confirmé qu'une lettre adressée à la Maison-Blanche semblait contenir un poison mortel, le cyanure. Dans un communiqué publié mardi, le Secret Service, qui est chargé de protéger le président et sa famille ainsi que divers hauts fonctionnaires, précise que la lettre a été reçue dans un centre de surveillance du courrier de la Maison-Blanche. Dans un premier temps, elle atteste négatif pour des agents biologiques, mais d'autres tests ont révélé la présence probable de cyanure. L'échantillon a été envoyé à un autre établissement pour des tests supplémentaires. L'enquête suit son cours. Le Secret Service a dit qu'il n'offrirait aucun autre commentaire. Et puis, l'armée syrienne a affirmé mercredi avoir abattu un drone américain suspecté d'espionner ses forces, ce qui apparaît comme la première attaque de Damas contre des appareils de la coalition luttant contre le groupe État islamique. Selon l'agence de presse officielle syrienne, le drone américain a été abattu dans la région côtière de Latakia. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information qui vous était diffusé de La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Soyez au cœur.